Oui, bon, parfait. Je m'entends pas, mais c'est correct, je m'entends pas de mes oreilles. Il est 13h04 et c'est avec plaisir que j'accueille Pascal Mathieu. Il est vice-président Québec pour la Croix-Rouge canadienne. Bonjour, M. Mathieu.
Hey, bonjour. Ben,
vous entendez quelque chose dans vos oreilles?
Non.
Vous, moi non plus. Bon, on va enlever ça. Je ne sais pas ce qui se passe. M. Mathieu, si on se voit aujourd'hui, c'est à la fois pour une bonne et une mauvaise nouvelle, j'ai l'impression. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un an, on vivait, dans quelques jours, une tornade à Gatineau qui a marqué l'histoire de Gatineau, qui a marqué des citoyens de Gatineau. On venait de se relever des inondations. Et là, c'est pas simple. Et là, on vit une tornade. On est un an plus tard. Vous avez décidé de faire un bilan, de dresser un bilan de ce qui s'est passé à la Croix-Rouge depuis un an grâce à vos bénévoles pour les sinistrés. Fait qu'on va en parler aujourd'hui. Merci. Alors, quand vous dressez votre bilan, vous arrivez à quelle conclusion?
Ben, ça l'a beaucoup avancé. Mais quand vous dites ça l'a marqué, une tornade qui frappe un quartier, en particulier un quartier comme celui de Mont-Bleu, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a des gens là pour qui c'est plus difficile de se relever. C'est pas simple parce que c'est un quartier de locataires où très peu de gens sont assurés.
Ben oui.
C'est pas simple parce qu'il y a une pénurie de logements assez grave dans la région. Fait où est-ce que tu remets ces gens-là? Je me promenais hier, puis encore ce matin, je suis retourné dans le quartier. Puis là, tu vois des beaux immeubles qui ont été refaits, mais tu en vois beaucoup qui n'ont pas été refaits. Alors ça, c'est autant de logements en moins pour la ville. Alors, puis ensuite, il y a les marques psychosociales, les gens qui sont stressés, qui ont de la difficulté à dormir, sont restés avec une peur. Alors, tout ça ensemble, ça rend le défi quand même assez élevé. Ceci dit, la population est extrêmement généreuse. On a quand même eu 5,8 millions de dollars en dons. Ça inclut le don du gouvernement du Québec, mais aussi ça inclut beaucoup de dons dans la région. Les gens d'affaires qui se sont serrés les coudes, qui m'ont appelé, le radio-don ici.
Oui.
Ça, c'est des choses à célébrer. Les bénévoles de la Croix-Rouge ont mis 7000 heures de bénévolat dans cette opération-là. Hier, quand j'étais avec...
7000 heures?
7000 heures. Ça, c'est sans compter qu'en travail, il y a eu les inondations. Là. Je ne sais pas combien d'heures de plus qu'ils ont mis. Là. Ils ont travaillé fort. Fait que l'aspect solidarité est vraiment quelque chose à célébrer. La résilience. Vous savez, dans les premiers jours, on avait 1000 personnes qu'on hébergeait. Il nous en reste encore. On a encore 5 familles qu'on héberge.
Et 5 familles?
Oui, ça baisse, mais il nous en reste.
Un an plus tard.
Oui, oui. Il y a la question de la pénurie de logements.
Oui.
Additionnée au fait que parmi les gens qu'on a hébergés, il y a des gens qui avaient vraiment une situation très précaire, beaucoup de difficultés financières, du logement très abordable à Gatineau. C'est pas évident à trouver.
Non, non, non.
Fait que, vous voyez, il y a 2 mois, j'en avais 11 sur ma liste, 11 familles. Après ça, on est tombé à 8-9. Là, il en reste 5. Il y a un comité qui a été mis en place suite à la tornade avec des intervenants communautaires, puis avec la ville, puis l'office d'habitation. Le même comité, quand on parle des choses un peu à célébrer malgré la difficulté, ce comité-là nous a permis de travailler ensemble pour trouver des solutions de logement. Mais quand les inondations sont arrivées, on a pris le même comité. Là.
C'est ça.
Puis là, quand ils se réunissent, ils ont la liste des gens des tornades, ils ont la liste des gens des inondations. Fait qu'il y a une espèce de travailler ensemble qui s'est développé. Au début de l'opération, on a découvert que dans le quartier Mont-Bleu, il y a des excellents organismes communautaires. Il y en a beaucoup. Souvent, un quartier comme celui-là, souvent, est riche de beaucoup de solidarité.
Mm-hmm.
On s'est mis à travailler avec des organismes comme la maison Daniel Johnson. Puis au fil du temps, on a pris un peu d'argent pour les financer. Ils ont offert des services formidables aux personnes. Je pense entre autres à Pop Ta Soupe. Vous savez, il y a des gens qui avaient perdu tout le contenu de leur congélateur avec la panne de courant. Puis on n'avait pas assez d'argent pour aider tout le monde. Fait qu'on a dit, l'aide financière, on va la concentrer en premier sur les gens qui ont tout perdu. Mais quand on a rencontré Pop Ta Soupe, ils ont dit, nous, on a une filée de gens à la porte. Ben, on leur a fait un chèque, puis la soupe populaire permet d'offrir plus d'aide. Alors, c'est des moyens de multiplier notre aide. Mm-hmm. Alors, il y a ceux qu'on aide directement parce qu'ils reçoivent un chèque de la Croix-Rouge, mais il y a tous ceux qui sont aidés parce qu'on a pu financer des organismes du milieu. D'ailleurs, au sujet des organismes, on a pris la décision cet été de doubler le montant disponible pour pouvoir, là, on est encore en tour de renouveler l'aide qu'on leur donne. Parce que quand on regarde avec eux non plus, leur travail n'est pas fini. Le côté social, le côté économique pour certaines familles, ils ne sont pas remis des difficultés. Alors, on va renouveler, là, on s'est commencé, là, l'aide auprès de plusieurs.
Fait que vous avez été impliqué dans toutes sortes de choses, notamment bon, l'aide de premier secours, je ne sais pas comment on appelle ça.
L'urgence.
Parce que là, ils n'ont plus de toit, donc vous avez logé temporairement, on a trouvé des logements pour ces gens-là, vous les avez souvent habillés, vous les avez épaulés, puis vous avez organisé, vous avez aidé les organismes communautaires. Quand je regarde les statistiques que vous avez dévoilées, il y a des gros chiffres, là, plus de 5 800 000 d'amancés. Oui. Bien ça.
Oui.
3 millions provenant du gouvernement du Québec, 49 % provenant du public, 4 millions dépensés et engagés, 223 bénévoles. Vous avez parlé de 7 000 heures, 67 familles bénéficiaires de l'aide au relogement visant évidemment à combler l'écart entre le loyer de l'ancien puis oui. du nouveau. Parce que, évidemment, connaissant le secteur Mont-Bleu pas mal, il y a beaucoup de bâtiments qui dataient. Mais la conséquence de ça, c'est que les prix, les loyers étaient en fonction aussi de du genre de logement que l'on offrait. Quand tu rebâtis, évidemment, avec les coûts d'aujourd'hui, c'est difficile de relouer au même montant. Alors, il y a eu une séquelle d'événements. C'était tous des vases communicants, puis c'est oui. là que vous avez beaucoup agi.
Tout à fait, tout à fait. Puis on ajoute les inondations à travers de ça, oui. qui ont frappé d'autres quartiers, mais qui sont dans le même... Le parc immobilier, au final, c'est le même. L'équipe bénévole qui travaille, dans quelques cas, même certains organismes, l'Office d'habitation, entre autres. Alors, c'est... Dans le fond, parfois, les donateurs ont l'impression que... ils ont raison, on intervient dans l'urgence, on offre les services de base. Mais la portion rétablissement devient beaucoup plus complexe parce qu'il faut tenir compte d'un paquet de paramètres et il faut travailler avec beaucoup de partenaires. On a travaillé, puis on travaille encore plusieurs cas avec les services sociaux, les gens du CISO. On a une disponibilité de leurs professionnels, travailleurs sociaux, psychologues. Quand le bénévole travaille avec un sinistré, surtout en pensant là, les premiers mois, là, tu travailles sur essayer de replacer cette famille-là ailleurs, puis ils font constamment en larmes. Bien, c'est pratique d'avoir accès à des professionnels parce que là, c'est clair que c'est pas juste un problème de logement. Là. Ça peut être du stress, ça peut être du choc post-traumatique.
Ouais.
Hier soir, les bénévoles attiraient mon attention sur le fait que, encore maintenant, ils croisent fréquemment des enfants, des personnes âgées qui ont de la difficulté à dormir. Ils disaient, il y a eu des tempêtes là, récemment, là, assez sérieuses. Puis, pas des ouragans, pas des tornades, pas des tempêtes menaçantes, mais juste une tempête. Puis le lendemain, quand ils rencontraient, surtout les enfants, les personnes âgées, commentaire, c'était « j'ai pas dormi depuis deux nuits ». Fait que là, mes collègues nous interpellaient à savoir qu'est-ce qui peut être fait. Bien, d'une part, il y a la référence aux professionnels du CISO, mais d'autre part, je jongle avec l'idée. On s'est mis un peu d'argent de côté pour ça. On voudrait parler à la ville, à des partenaires pour faire des activités. Nous, on appelle ça de résilience. On le fait. Je l'ai expérimenté de première main à Lac-Mégantic. Tu fais des activités où tu enseignes aux gens, souvent aux enfants, comment te préparer une trousse, quel geste poser s'il y a une catastrophe qui se produit, par exemple pour une tornade. Les gens apprennent quoi faire, mais surtout, ils prennent confiance en eux et ils peuvent vaincre leur peur. C'est nono comme ça, mais ça atteint deux objectifs en même temps. Fait qu'on regarde de l'avant et on se dit, là, on a encore un travail à finir, mais ça serait le fun de laisser un leg où les gens de la communauté sont plus forts.
Est-ce qu'on peut rapidement parler de bénévoles?
Oui.
De vos bénévoles.
Oui.
Parce que là, à Gatineau, on les utilise pas mal, deviennent de très bons bénévoles.
Oui.
C'est quoi le profil de votre bénévole? Qu'est-ce qu'on lui demande? Quelle formation on lui offre? Comment ça marche? Je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont prêts à donner un coup de main dans des situations épouvantables. Honnêtement, deux pieds dans l'eau, deux fois en trois ans,
oui.
la tornade, t'sais, on leur demande tellement. Parlez-moi d'eux, là, parce que c'est des vrais héros.
Vous avez tout à fait raison, puis en particulier l'équipe ici à Gatineau, parce que ça fait trois grandes crises, je vous le disais hors d'onde, ça fait trois grandes crises qu'ils vivent, puis hier, alors que je me disais ils vont peut-être être fatigués, bien, ils sont prêts pour la prochaine, eux autres. Ils sont craqués, ils sont heureux.
On n'est pas pressés.
Non, en fait, ce qu'ils m'ont dit, Anne, la chef d'équipe, m'a dit, écoute, ça serait le fun qu'elle soit ailleurs, d'une autre région, on va être content de les aider. Mais pour répondre à votre question, les compétences qu'on développe avec nos bénévoles se développent à l'avance. Ce n'est pas le matin d'une tornade que tu commences à recruter. Alors, on recrute présentement. Ce qu'on cherche, c'est des gens disponibles. C'est un des maîtres mots parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être appelé. Je vous rappelle que nos bénévoles interviennent aussi sur des incendies résidentiels.
C'est ça.
À tour de rôle, ils ont la pagette. Pas toujours, parce qu'il faut bien qu'il y ait un repos, mais à tour de rôle, par sous-équipe, ils font des tours de garde, ils ont une pagette. Si le service d'incendie nous appelle, il doit se déplacer de jour de nuit. Donc, il y a un enjeu de disponibilité. On a des gens là-dedans dont la profession leur donne un peu de liberté dans leur temps. Et on a beaucoup de jeunes retraités. Alors, ça prend des gens qui ont ça. La deuxième chose qu'on cherche, c'est des bénévoles qui résistent très bien au stress. C'est pas donné à tout le monde. Tu as devant toi des gens en crise. Il faut que tu gardes ton calme. Puis, on les forme pour ça. On leur dit quelles paroles sont efficaces, dans quel ordre poser tes gestes avec une personne en crise, la plus grande partie de notre formation porte sur le réconfort. Mais il reste que si tu n'as pas d'aptitude pour ça, il y a des gens qui ne sont pas capables de voir quelqu'un pleurer. Malheureusement, nous, on se concentre sur ceux qui ont cette capacité-là. Ensuite, ben, on cherche des gens qui vont être prêts à s'engager pour quelques années parce que la formation qu'on donne à nos bénévoles nous coûte quand même assez cher. On les met sur beaucoup de cours. Ils sont formés sur comment faire face à quelqu'un qui est en crise, sur quels gestes poser, sur les petits sinistres, enfin les sinistres courants comme les incendies, sur les grosses opérations, comment monter un centre d'hébergement. En secourisme, on ne sait jamais, il pourra avoir besoin de réanimer quelqu'un. Alors, ce qu'on veut, c'est des gens qui vont s'engager pour quelques années.
Je comprends.
Alors, c'est ça nous fait des équipes qui sont très fortes. En général, les gens, tantôt je vous le disais, là, les gens, ceux qui sont faits pour, adorent ça, ils restent. Il y a beaucoup de cohésion puis de camaraderie. On a des réunions de formation, ils voient leurs collègues un peu partout au Québec. Alors, ils se racontent leurs bons coups de ce qu'ils ont fait dans telle ou telle opération. Puis quand il y a une grande crise, ils sont contents de voir arriver leurs amis, les renforts du reste de la province.
Dans le fond, c'est un mauvais mot que je vais utiliser, mais c'est presque l'équivalent d'un club. Tu sais, dans le temps, ça marchait, le Kiwanis, les optimistes, etc. Puis pourquoi les gens se rassemblaient sous une bannière? C'est parce qu'ils avaient à cœur la même mission. C'est un petit peu ça chez vous,
oui,
c'est la
oui.
même mission. On a les mêmes intérêts, on a le goût de servir, puis on a le goût d'aider le prochain. C'est ce qui fait la beauté.
C'est
de...
exactement ça. Puis souvent, ils vont développer un sentiment de camaraderie, un sentiment d'appartenance, font partie d'une équipe.
Tout à fait.
Alors, c'est exactement ça. Et on a tendance à les garder assez longtemps, ceux qui veulent. Alors, c'est une bonne nouvelle.
Alors, j'utilise le micro que j'ai et par votre entremise pour les remercier leurs gestes, de leur travail, puis de leur écoute, puis de leur compassion auprès des gens de l'Outaouais. Merci à vous aussi. Encore une fois, excellent travail, un beau bilan aujourd'hui. Et M. Mathieu, prenez pas ça mal, là, mais j'aimerais ça pas vous revoir pour plusieurs années. Merci beaucoup, Pascal Mathieu.
Merci.
Merci. Pascal Mathieu, il est vice-président Québec pour la Croix-Rouge canadienne. Je vais prendre une courte pause et il sera avec moi tout de suite après la pause. Il a même sa cravate aujourd'hui. J'imagine que ce sera une chronique très sérieuse. Carl Bélanger est avec moi, on va parler d'élections fédérales.